Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. Bien sûr, c'est la deuxième heure de Roten sans flamme spéciale Coupe du Monde. Et oui, on est là en direct de Doha, magnifique, avec Jean-Louis Tour, toujours avec Jean-Michel Larquet. Et là, on accueille du lourd. On accueille du lourd parce qu'on a accueilli un champion du monde. Lui, il a connu la Coupe du Monde, il l'a gagné, il l'a levé. Et en plus, il a été meilleur joueur de la compétition. Ah. Salut Manu.
Salut
Manu
tout le monde.
Avec nous.
Manu, ça va, les gars? Il a aussi connu un troisième match de poule où ça avait fait tourner et où il avait marqué. Et celui-là, on l'avait gagné contre le Danemark en 98.
Bah, lui, il tournait jamais. Bah, j'ai sur le terrain, il était à bloc.
En équipe de France, dans toutes les grandes grands événements que j'ai joué, il y a toujours eu un turnover le dernier match de poule.
Ouais, voilà. Mais là, il y en a toujours eu aussi avec Didier Deschamps ces derniers temps, mais on ne gagne pas ce troisième match.
C'est vrai
dans
qu'on
le turnover. Ces derniers temps, la France a perdu donc
1-0. On n'avait pas gagné en 2000. On n'avait pas gagné en 2000.
C'était contre les Pays-Bas,
mais c'était un très bon match.
Très, très bon match.
On l'avait perdu 3-2, non? C'est
3-2, oui, c'est ça.
Exactement.
Ouais.
Ouais, mais en tout cas, aujourd'hui, on a perdu 1-0 face à la Tunisie. On est quand même qualifié premier du groupe. Le 8e de finale, c'est dimanche à 16h. On connaîtra l'adversaire ce soir à 20h. Pologne, Argentine et Arabie Saoudite, Mexique. On affrontera le deuxième de ce groupe-là. On présentera la rencontre tout à l'heure, mais on va rester sur l'équipe de France. Je vous rappelle que l'Australie s'est qualifiée avec les Bleus, donc pour les 8e de la Coupe du Monde. On va entendre Didier Deschamps dans une seconde. Manu, tu vas nous donner ton avis. Est-ce que cette défaite peut porter à conséquence? Est-ce que ça a changé ta vision sur certains éléments de cette équipe de France? Mais juste avant, l'histoire quand même de la rencontre, c'est cette fin de match rocambolesque. But inscrit par Griezmann, on pense qu'on fait un partout finalement contre la Tunisie. À l'arrivée, l'arbitre siffle la fin du match, revient sur sa décision et finalement invalide le but, ce qui donne cette défaite. Il y a eu pas mal de confusion à la fin du match, on a pris le temps de recouper les infos pour vous expliquer clairement ce qui s'est passé. On va faire le point avec Jeannot Rességuet qui est de retour avec nous.
Oui, rebonsoir. On va essayer d'être le plus clair possible. 98e minute, Griezmann frappe du droit à bout portant, marque le but de l'égalisation. Les joueurs de l'équipe de France félicitent Grisou tout en revenant vers le rond central, tout comme les Tunisiens totalement dépités. L'arbitre décide à ce moment-là de siffler la fin du match, ce qu'il fait, tout en mettant le doigt à l'oreillette et fait signe aux joueurs qu'il y a un doute sur l'action. Il va voir lui-même les images, le signifier aux joueurs, court vers l'écran de contrôle qui se trouve entre les deux bancs de touche. Et il y a position de hors-jeu de Griezmann selon ce qu'on lui dit dans l'oreillette. Il va donc vérifier de lui-même au moment où il reçoit le ballon. Il est donc en position de hors-jeu avant de déclencher la frappe. L'arbitre prend le temps de regarder les images alors qu'encore une fois, on le rappelle, il a sifflé la fin du match. Il revient sur la pelouse, signale avec le geste l'écran de télévision que le but est refusé. Coup franc à la hauteur de la position de hors-jeu de Griezmann, rend le ballon donc aux Tunisiens. Pour une position de hors-jeu, la Tunisie gagne 1-0 puisqu'il laisse le temps de l'assistance vidéo, le match se dérouler ou se redérouler. Donc il n'y a pas de faute technique de la part de l'arbitre. Il a cette possibilité-là de le faire dès l'instant où, même s'il a sifflé le match, dès l'instant où les Tunisiens n'ont pas engagé après le but de Griezmann, ce qui est le cas. D'accord. Donc il est resté sur l'action qui s'est passée, désolé capitaine, qui s'est déroulée, et donc de ce fait, il avait la possibilité de le faire. Un exemple, en 2018, dans un match de Bundesliga, tout le monde était rentré au vestiaire, l'arbitre a rappelé tout le monde pour faire tirer un pénalty, parce qu'au moment où il décide que la première mi-temps se termine, il y a un doute sur une action, une faute d'un joueur, et donc il fait revenir les joueurs de Mayence et de Fribourg sur le terrain pour tirer le pénalty. Donc c'est dans la possibilité de l'arbitre, avec l'assistance vidéo, dans la discussion, il y a donc possibilité de le faire. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là.
Merci Jeannot, ouais, c'est très clair.
Il y a deux choses.
Oui, vas-y.
Le pénalty, c'est bien ce que l'on a dit, qu'on pouvait prolonger un match. La seule action où on pouvait prolonger un match, c'était tirer un pénalty. Oui. On est bien d'accord. On l'a dit tout à l'heure. Hein, nous l'avons dit. Alors. Sauf que à un moment donné, il dit, il n'a pas les Tunisiens n'ont pas redonné le coup d'envoi. Mais ils n'ont pas redonné le coup d'envoi puisque le match est fini.
Ben oui.
Alors, excusez-moi, je comprends pas tout, mais ils ont pas redonné le coup d'envoi puisque le match est fini. Ils vont pas donner le coup d'envoi alors qu'on a signifié la fin du match. Enfin,
donc, pour lui, il avait peur. Mais dans ce cas, Jean-Michel, quand la fin du match est sifflée tout de suite, on peut quand même revenir dessus.
Voilà, c'est ça
l'évolution.
Mais ça, c'est autre chose.
C'est ce qu'il indique immédiatement aux joueurs, puisque nous, quand on est au moment où il siffle la fin du match et par des impératifs, on lâche l'antenne parce que, comme on dit dans le jargon, il y a un billboard pub qui doit passer à ce moment-là parce que c'est comme ça. Et quand on revient derrière et qu'on peut expliquer ce qui s'est passé, c'est vrai que pour nous, la situation à vitesse réelle est incroyable parce que au moment où on le voit courir vers l'écran de contrôle, c'est là où moi personnellement je comprends qu'il y a un doute et qu'il va voir les images par rapport à l'action qui a amené le but de Griezmann. Mais on ne voit pas au départ à vitesse réelle le doigt à l'oreillette. J'ai pris le temps de revoir les images, d'interroger les gens qui ont revu les images et c'est exactement ce qui s'est passé.
Je ne suis pas catégorique. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais voulu l'avis d'un
arbitre.
D'un arbitre.
On en a contacté certains, c'est pour ça qu'on dit ça.
Est-ce que c'est la seule chose. Moi, je sais qu'un seul match, on ne va pas y revenir toute la soirée. On a parlé de l'histoire du pénalty qui pouvait être tiré avec le gardien et le tireur de pénalty, c'est tout, et les autres étant rentrés au vestiaire. La question est de savoir si, ayant sifflé la fin de la rencontre, il peut revenir sur sa décision.
La réponse est oui. Voilà. La réponse est oui. Jean-Michel, c'est ça les retours qu'on a eus depuis une heure. Voilà. Donc laissons ce dossier de côté. Merci Jeannot pour les précisions. Et on va revenir sur le match. Donc cette défaite 1-0. Jérôme, t'as émis pas mal de critiques.
Ouais.
Globalement, on peut prendre l'avis de Manu.
Bah oui, bien sûr. Alors, Manu, qu'est-ce que tu as pensé globalement du match? Et puis moi, j'ai mis le point sur l'état d'esprit, tu vois, sur
des remplaçants,
sur la personnalité des joueurs. Ouais, des remplaçants. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah, j'ai été déçu, comme tout le monde, de façon unanime. Le seul point positif de ce match-là, c'est qu'on n'ait pas eu de blessés. Avec les 4 qui sont rentrés en 20 minutes. Moi, j'avais peur, en fait, sur les 20 dernières minutes, parce qu'à ce moment-là, la Tunisie jouait encore sa qualif et nous rentrait toujours dedans. Donc, je me suis dit, j'espère qu'on ne va pas sortir avec Griezmann ou Mbappé blessé, en sachant que la veille, il y avait déjà un problème à la cheville sur Kylian Mbappé. Donc, je me suis dit déjà que la journée, elle est bien pourrie. Alors, si en plus, on doit la précipiter en catastrophisme, qu'est-ce que vous voulez tirer des enseignements aujourd'hui? Je suis à la place de Didier Deschamps. Déjà, je prends ma part de responsabilité quand même. Parce que ça suffit de faire du bricolage, quoi. Je veux dire, les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Et puis les joueurs aussi, je veux dire, tu avais déjà un cas de jurisprudence qui s'appelle Pavard. Pavard, dans ce match-là, c'était l'occasion rêvée de le relancer. Et puis au final, il est à la cave. On m'a dit qu'il était en train de s'échauffer, mais qu'il n'est pas rentré. Donc quelque part, je me dis, on n'a pas perdu que Pavard aujourd'hui. Donc moi, je prie, je croise les doigts. Et là, je vous dis en connaissance de cause, parce qu'en 98, rappelez-vous, on perd Zizou, on perd Laurent Blanc et on perd Marcel Desailly. Et il a fallu au pied levé que les remplaçants ou d'autres joueurs prennent leurs responsabilités dans des positions qui n'étaient pas les leurs. À commencer par moi.
Là, on en a déjà perdu 6 quand même.
Exactement. Donc
avant la Coupe du Monde.
Quand je vois la tête de Disasi à l'issue du match, je me dis qu'il sort d'un enterrement. Je me dis, en fait,
il était content de lui. Quand
non seulement on a perdu un match, mais on a perdu aussi pas des garanties ou des certitudes, mais on est certains espoirs concernant des remplaçants. Enfin, ce match pour moi est un échec sur quasiment tous les plans, hormis celui de pas avoir de blessés. Donc, pour moi, encore une fois, je veux pas trop les accabler. La France est qualifiée. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'on ait cassé cette dynamique. Parce que moi, je crois profondément en dynamique, notamment dans des compétitions qui sont retranchées sur 3 semaines. Tu dois dégager ce sentiment de puissance. C'est ce qu'avait fait l'équipe de France depuis son entrée dans cette Coupe du Monde. Elle est montée en puissance. Ouais. Et là, ça s'arrête net. Et moi, la dynamique est très importante parce que ça instaure, peur à l'adversaire.
C'est ce qui s'est passé cet après-midi.
En dehors du résultat.
C'est bon, on a quand même fini premier.
Oui, on a fini premier. Et les titulaires ont bien regardé. Mais en même temps, je me dis, jusqu'à la fin de la compétition, en tout cas jusqu'à dimanche, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés. C'est tout.
Non, non, mais moi, j'émets les mêmes doutes que toi. Et là-dessus, sur des compétitions, et vu que tu l'as gagné, tu as plus d'expérience que moi sur la vie d'un groupe, ce que ça, comment tu peux te reposer aussi sur les remplaçants ou les coiffeurs. Oui. C'est le terme qu'on.
Pour moi, c'était un match où il va y avoir de la joie aujourd'hui.
Exactement. Et là où je te rejoins, Manu, c'est que. Là, ils vont rentrer,
Jean-Michel. Ah bah ce soir, c'est la soupe à la grimace, hein, à l'hôtel.
Voilà, ils vont rentrer à leur, dans leur camp de base.
Et puis, écoute-moi, j'ai remis un truc. Moi, il y a certains joueurs, à mon avis, qui sont en train de se questionner par rapport à Didier sur le fait, sur l'utilisation qu'il en fait.
Ben oui, parce que on avait émis des critiques et on va pas revenir dessus parce que le groupe, il est fait et puis point final. Mais aujourd'hui, quand tu vois certains, comment ils sont utilisés, et comment ils sont pas du tout utilisés quand l'équipe de France peut en avoir besoin, parce qu'il y a eu des manques sur les deux premiers matchs. Par exemple, quand on parlait du milieu de terrain qui était fatigué contre le Danemark. Le Danemark, quand ils ont égalisé, il a pas changé. Alors ça lui a donné raison parce qu'on a marqué à 5 minutes de la fin, pas de problème. Bravo, bravo Didier. Le groupe a gagné. Mais n'empêche que il a beaucoup, lui aussi, de points d'interrogation sur le niveau de terrain. Et aujourd'hui, quand tu vois que certains qui jouent pas du tout à leur poste, moi tout à l'heure, je suis tombé sur Guendouzi, je suis tombé sur Fofana, sur Guendouzi et sur Verretou, j'aurais pu mettre aussi Fofana, parce que Fofana a évolué une position où t'attends d'un milieu droit beaucoup plus de choses.
Dizazi, c'est plus pas été historique non plus, hein.
Comment?
Dizazi, ça n'a pas été historique, et Kamavinga non plus, hein.
Oui, mais moi, je trouve que Jean-Michel, alors je sais pas, même Manu, je sais pas si je fais une erreur, mais moi je c'est le milieu de terrain qui m'interpelle et depuis le début, je me dis qu'on est dépourvu au milieu de terrain depuis le forfait de Pogba et Kanté entre autres, et que les remplaçants, malheureusement, pour moi j'ai des gros points d'interrogation, mais encore plus aujourd'hui quand tu les as mis dans des positions qui sont pas le leur et qu'ils ont montré extrêmement de limites. Et que psychologiquement tu les as perdus.
Franchement,
attendez, je voudrais qu'on fasse participer Philippe qui est là au 32-16 et qui patiente depuis tout à l'heure.
Salut
oui,
Philippe.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir, salut. Bonsoir Philippe. Bienvenue
bonsoir.
Philippe.
Bonsoir Jérôme. Bonsoir Manu. Salut, bonsoir Philippe. Capitaine qui m'a fait aimer le football en 75 contre le Dynamo de Kiev au match retour. Ce que je voulais dire, c'est que moi je suis pétrifié par ce que j'ai vu aujourd'hui, quoi. Et j'en veux énormément à Didier Deschamps parce que faire tourner, on peut pas galvauder un match de Coupe du Monde comme ils l'ont fait aujourd'hui, quoi. Faire tourner l'équipe, c'est bien, mais faire 9 changements, mettre des gens à des postes qui sont pas les leurs. Je sais pas, aujourd'hui, moi, comme le dit Manu, on a envoyé un message négatif aux autres nations. En fait, aujourd'hui,
est-ce que vous dramatisez non,
c'est un match qui comptait pour rien.
Négatif aux autres nations.
Les titulaires n'ont pas joué, donc ça les impacte pas eux.
Les titulaires ils seront là en huitième et puis.
Au contraire, ça les conforte dans leur position malheureusement.
De Griezmann, les adversaires.
Ça les conforte dans leur position et c'est ça que je regrette. Dans une compétition comme ça, il faut avoir de la concurrence, il faut se sentir sur le cul-vive en permanence.
Ouais, mais en 2018, on gagne sans concurrence, on a le 11 type et c'est.
Ouais, mais 2018, tu ne compares pas 2018 et aujourd'hui, c'est 4 ans et c'est.
Je peux pas comparer.
Ce que je veux dire, Manu, c'est quand tu as ton 11, tu peux très bien aller au bout avec. C'est ce qui s'est passé en 2018.
Mais retiens ce que je dis tout à l'heure. Prions pour qu'il n'y ait pas de blessés jusqu'à dimanche. On a failli perdre qu'il est le pays.
Vas-y Philippe.
En fait,
vas-y.
Manu et Jean-Louis, ouais. Ma plus grosse inquiétude, c'est que il faut prier pour que Hugo se blesse pas dans les cages parce que le pauvre Steve aujourd'hui, il a été en dessous de tout. Donc, j'étais déjà inquiet quand j'ai vu la liste des 25. Parce que je me disais, si Hugo n'est pas là, c'est derrière, il y a Steve et Areola. Donc, c'est pas génial. Mais ce que je veux dire, c'est que. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est produit, c'est que on envoie un message négatif à toutes les autres nations qui peuvent prétendre à la victoire finale. Et ce dont on se rend compte, c'est que on est 14 joueurs, 15 joueurs maximum, quoi. Mais après, sur le banc, il n'y a plus rien. Et ce que je comprends pas aussi c'est les choix de Didier aujourd'hui. Didier Deschamps, moi, je sais pas, mais s'il voulait casser le moral à Benjamin Pavard à droite, ben il n'aurait pas fait autrement. Mettre des joueurs à des postes qui sont pas les leurs, c'est leur indiquer quoi,
prendre
le risque Philippe. De ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire une catastrophe en fait.
Philippe,
on se rend compte qu'on n'a pas un groupe au niveau, à part les 14-15 titulaires en fait.
Non mais même l'indication.
Moi, ça m'inquiète.
Philippe, je rajouterais, je prends simplement Kamavinga, je pourrais prendre d'autres exemples hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quoi le message que tu lui envoies? Je ouais. te mets pas au milieu de terrain, en sachant que je renouvelle tout mon milieu de terrain, mais je te mets arrière gauche. C'est-à-dire que tu le prends en fait pour être la roue de secours arrière gauche alors qu'il a toujours joué milieu de terrain. Et arrêtez c'est de me dire qu'il a joué arrière gauche quand il était jeune. On a bien vu aujourd'hui qu'il était très très loin des automatismes.
Non, ça s'est vu, il est reparti dans l'axe à chaque fois qu'il avait le ballon.
Alors Philippe, on va retrouver Didier Deschamps, non, il a, qui est en conférence de presse en direct. On écoute le sélectionneur.
Est-ce que c'était pas risqué pour la confiance des joueurs que vous avez alignés de les envoyer comme ça sur un match de Coupe du Monde pour certains avec très peu de sélection, voire pas du tout pour Axel Disasi. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont en retenir finalement?
Ça leur servira. À bout d'un moment, c'est, on le fait ou on le fait pas. L'objectif était évidemment autre, de par le fait de ménager certains joueurs, d'autres qui étaient à risque parce qu'ils peuvent avoir des petits bobos. Jules qui a Koundé qui a un carton jaune, même s'il y en a un qui est venu se rajouter et qui aurait dû jouer, c'est Marcus Thuram, mais qui a eu un problème et j'ai dû changer en début d'après-midi. Écoutez, j'ai bien conscience que de par le fait qu'il y ait moins de repères, ça nuit à l'expression collective. Néanmoins, tous ceux qui étaient là, ça leur permet, comme je leur ai dit, de toucher du doigt les exigences du très très haut niveau. Face à une équipe tunisienne survoltée, voilà, on a été timide. Un retard dans les duels, des erreurs techniques. Mais bon, voilà. Même si on a réussi avec, évidemment, l'entrée de joueurs plus expérimentés, d'avoir beaucoup de situations, d'occasions, on a même égalisé en fin de match. Donc... pas atteindre tous les objectifs. Le premier, c'était le plus important, c'est d'être qualifié, d'être en huitième. Et je n'ai pas négligé ce match-là, mais il devra nous servir pour dans quatre jours. Oui.
Bah, écoutez, quel est le sentiment finalement qui prédomine ce soir? Est-ce que c'est la satisfaction, tu l'as dit, de terminer premier? Ou est-ce que c'est aussi la déception face à une...
On n'est jamais content, les joueurs ne sont pas contents. Je vous dis sincèrement, on est 24. Les 24 ont gagné les deux premiers matchs et les 24 ont perdu le dernier match. Et j'aurai besoin des 24 pour celui qui nous attend dans 4 jours. Avec certains qui auront fait le plein d'énergie parce que malgré tout, on sortait de deux matchs d'une très très grosse intensité en 4 jours. Notre adversaire, je ne sais pas qui il sera encore, il est obligé de jouer un troisième en 12 jours et quand on le rencontrera, ça sera en 8 jours. Et ça, quand on le rencontrera, ça sera le quatrième en 12 jours. Donc il y a besoin de fraîcheur, on ne peut pas tout avoir, mais qu'on soit capable malgré tout de faire mieux que ce qu'on a fait, oui. Parce que l'adversaire ne nous l'a pas laissé et puis parce qu'on a un peu favorisé aussi le fait qu'il vienne nous chatouiller.
Voilà pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc, sa réaction après la défaite des Bleus face à la Tunisie. Désormais, on va voir les regards braqués donc sur ce huitième de finale des Bleus dimanche à 16h. On continue le débrief dans une seconde et on lancera également les matchs du soir. Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique. On remercie Philippe qui est venu débattre avec Philippe. Nous au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h21 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde. On est en direct de Doha, bien sûr, avec Jean-Louis Tour, avec Jean-Michel Larqué et avec Manu Petit. On continue nos débriefs de l'équipe de France. On a entendu Didier Deschamps. Et même sur Didier Deschamps, il y a des choses à dire parce que je pense que là, aujourd'hui, il était à côté de la plaque. Ça soit avant le match, pendant le match et après le match.
Moi, vous m'enlèverez pas de l'esprit, vous me racontez ce que vous voulez, mais vous dramatisez quand même énormément anecdotique Jean-Louis, avec les remplaçants.
Enfin, je sais pas ce qu'ont dit les collègues. Moi, je dramatise pas non plus. Simplement,
j'ai l'impression qu'on s'est fait éliminer là.
Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, Jean-Louis? C'est pas grave.
Non,
ils ont été bons.
Relativiser,
c'est très difficile.
On n'a pas été bons, mais on a vu quand les titulaires étaient là, ça allait quand même beaucoup mieux. C'est pas une équipe qu'on reverra dans un match
beaucoup mieux.
ça veut dire que les remplaçants ne servent à rien. Ça veut dire que on aurait dû partir plutôt à 14 ou 15.
C'est les remplaçants des remplaçants. On a quand même 6 absents dans cette équipe de France.
Non mais attends, c'est les remplaçants qui sont en Coupe du Monde. C'est les remplaçants d'une fédération qui a 2 millions de licenciés. C'est les remplaçants. Il paraît que notre troisième équipe est meilleure que l'équipe de Tunisie.
Ah, vous entendez, on met à la poubelle toute la Coupe du Monde.
Arrête de faire la fichette. Quand on parle de dramatiser, je voudrais simplement poser une question pas sur le match. Là, on a dramatisé parce que hier au soir, je crois que c'est hier au soir, en changeant de chaussures ou de chaussettes, on s'est aperçu que Mbappé avait un strap. Mais je pose une question.
Jean-Louis, ça.
Est-ce que avant chaque entraînement, il ne strappe pas la cheville? Parce que moi, il y a des années et des années, j'ai connu personnellement, et moi-même je le faisais, à chaque entraînement, je mettais un petit bandage à mes chevilles.
Ouais,
est-ce que...
Sûr. Non, mais ça, l'histoire du strap, laissons-la de côté. Là, on est sur le match qui vient de se finir.
Mais vous, quand tu dis qu'on dramatise, on dramatise sur des choses qui sont... peut-être qui n'ont rien à voir avec ce qui est important. Ouais. Et là, on ne dramatise pas. On dit simplement, vous m'avez énervé tout à l'heure, Daniel.
On dit simplement qu'ils ont été nuls. Ben écoute, Manu dit ça parce que c'est son expérience aussi.
Tu vas parler de l'Euro 2000, vous perdez le troisième match à l'Euro 2000, ça n'a pas cassé la dynamique.
Mais Jean-Louis, s'il y avait une vérité,
la qualité du match
à l'Euro 2000, ça serait.
Je te dis pas, ça n'a rien à voir.
J'espère que tu ne fais pas partie de ceux qui s'intéressent qu'au résultat, quand même.
Jean-Louis, on est là pour. On fait des débriefs de chaque match. On fait des émissions avant les grands rendez-vous aussi. Dimanche, ça sera un grand rendez-vous. On est d'accord. Aujourd'hui, on n'analyse pas le match de dimanche, on analyse le match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, pour moi, il est inquiétant. Point final. Il est inquiétant parce que les remplaçants ont montré un niveau pas digne du niveau international. Et plus encore.
Mais quel automatisme ils avaient entre eux.
Plus encore, les joueurs. Tchouaméni est titulaire. Est-ce que Tchouaméni est titulaire en équipe de France? Est-ce que Tchouaméni, t'es content de son match? Est-ce qu'il a aidé les autres? Parce que s'il est titulaire, à ce statut-là, il doit aider les autres aujourd'hui. On tombe sur Guendouzi, qui est pas à son poste. On tombe sur Fofana, à juste titre, et de Veretout. Mais Tchouaméni, il doit aider.
Il
doit faire.
Sélection,
aujourd'hui, Tchouaméni, il est placé au poste de Paul Pogba.
Jean-Louis, je vais te dire pourquoi il y a un côté dramatisant, et ce qui peut être compréhensible, c'est que les signaux que nous ont envoyés les remplaçants aujourd'hui ne sont pas bons du tout, alors qu'on était déjà inquiets sur certains positionnements parce qu'on a eu des blessés. Aujourd'hui, on se dit, moi je me pose la question, c'est pour ça que je me projette, je veux que l'équipe de France aille au bout. Demain, Koundé, dimanche, imagine, il est titulaire, il prend un jaune. Ça veut dire que si l'équipe de France passe, il sera suspendu en quart de finale. Le frangin se blesse également à l'entraînement à côté gauche. Tu vas jouer avec Kamavinga à gauche, tu vas jouer avec Trabbi, ton milieu de terrain.
Je reprends ma Coupe du Monde 2018. Le troisième match, il est catastrophique contre le Danemark. Purge absolue. On avait fait tourner pas mal de joueurs et ça nous a pas empêché d'aller au bout quand même.
Oui, mais on avait des certitudes.
On n'avait aucune certitude en 2018.
Oui, mais il nous a concocté quelque chose à cette époque-là. Il était vraiment inspiré, Didier. Là, je trouve qu'il est en perte de souffle, même s'il a tout mon soutien encore et toute ma confiance. Mais sincèrement, ces derniers temps, j'avais fait quoi
le match en 98?
Le troisième match, 2-1, on a gagné.
Manu avait marqué.
À Lyon, t'as gagné. Oui.
Donc,
et on avait fait un bon match aussi.
Manu a raison. En plus, t'as gagné et t'as changé. Après, là. Franchement, Jean-Louis, je vais te dire, le match, il y a eu des purges. On parle de 2018. En 2018, t'as fait 0-0 contre le Danemark, mais c'était une purge des deux côtés.
Oui.
Parce que ce match ne servait à rien pour les deux. Les deux étaient qualifiés. Ok, n'empêche qu'aujourd'hui, t'avais une équipe qui t'a mis du rythme, qui était joueuse, c'est la Tunisie. Et ça, il faut reconnaître que face à un adversaire qui se livre autant, je pense qu'il y avait des choses à faire, même pour les remplaçants, même pour des mecs qui jouent pas à leur position. Oui. Aujourd'hui, ils ont rien fait. Et surtout, moi, c'est pas techniquement que je les juge, parce que certains, je pense qu'ils, c'est un plafond de verre, ils ont pas le niveau international, mais ça, c'est mon jugement. J'espère qu'ils l'auront un jour. Et je parle pas forcément des plus jeunes comme Colomoigny, parce que lui, il a vraiment de la progression en lui. Mais je parle des joueurs comme Veretout, comme Guendouzi, comme aujourd'hui Fofana, comme Tchouaméni, parce que Tchouaméni, je trouve qu'il est décevant. Il est décevant, il doit faire mieux au milieu de terrain, il doit être patron aujourd'hui. Et je te parle pas des autres qui ont joué derrière et qui ont pas été au niveau. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, tu as perdu certains parce que la confiance, les jambes qui tremblent, eh ben, ils l'auront encore plus si on doit faire appel à eux dimanche soir parce que c'est un match couperet. Ben voilà, ça, c'est problématique. Okay. Et en plus de ça, et je rajoute et je finis là-dessus, c'est Didier Deschamps qui, pour moi, par rapport à son discours d'avant-match, par rapport à ça, ce qu'il a mis en place, et surtout son discours d'après-match que j'ai pas du tout aimé, parce que là, franchement, il nous prend pour des cons.
Et alors toi, tu veux pas en parler, Jérôme, moi j'ajoute la liste, hein, la composition de cette liste. Et
ça revient à ça, avant, c'est pour ça que je disais
même pas 26, ça, parce que nous on prend pas 26, mais...
C'est avant, le péché originel, non, gars, ça, c'est le péché originel.
Aujourd'hui,
nous faire croire qu'à un moment ou un autre, on va remplacer... on va remplacer le remplaçant d'un défenseur par un milieu de terrain. Le pauvre Kamavinga, ça a été une catastrophe. Dizazi qui est le remplaçant de Koundé parce que Pavard est au fond du trou.
Mais c'était l'occasion rêvée, capitaine, de le relancer en deuxième période, Pavard.
Oui, il y a peut-être une histoire qu'on ne sait pas.
C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas lui qui a pas été relancé.
Non, pour finir juste là-dessus, Jean-Louis, Jean-Michel et Manu. Quand tu joues, il le sait, Didier Deschamps, franchement, pour préparer des compétitions, préparer des groupes, il n'a rien à prouver.
Ah, exactement.
Ok, donc il sait que dans la compétition, si jamais il gagne ses deux premiers matchs, il va faire tourner, il va évoluer dans un 4-4-2 comme il a fait aujourd'hui, parce que ça, c'est pas tombé du ciel, c'est préparé aussi avant. Et donc, tu es en train de m'expliquer que Didier Deschamps, dans sa construction de groupe, mais toi, tu penses comme moi, Jean-Louis, il se dit... Pour faire souffler le milieu gauche ou le milieu droit, eh ben, oh, ça va, ben, j'ai Guendouzi, j'ai Fofana. Mais ça, c'est problématique quand même, sans déconner. Parce que là, il faut aller mettre un cierge ou aller prier ce que tu veux pour dire Dembélé et Mbappé, vous jouez sur les côtés, mais vous blessez pas, les gars. Hein, parce que comment on va jouer derrière?
Et j'ai une petite pensée pour Klaus, Mendy et compagnie, quoi, qui doit.
Ah oui, exactement. Et Diaby, et puis d'autres.
Oui, on en cite plein. Allez, dans une seconde, on revient avec les matchs du soir. Dans une demi-heure, on aura le coup d'envoi des matchs Pologne, Argentine et Arabie Saoudite, Mexique. On connaîtra l'adversaire des Bleus à l'issue de ces rencontres pour le huitième de finale. À tout de suite dans Rotten sans flamme.
RMC Rotten sans flamme.
Intégrale Coupe du Monde.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.